Le message d'aujourd'hui, c'est utile, soyez fervents d'esprit. Que Dieu vous aide, que Dieu nous aide tous à comprendre et à saisir ce que c'est que Dieu, ce que c'est que la marche avec Dieu. Et ce n'est pas facile, et c'est vrai, de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il dira que chacun a une croix à porter. Et ce n'est pas facile de croire que le monde que nous voyons, qui nous entoure, est un témoignage de la présence de Dieu, mais un témoignage qui peut vous perdre, un témoignage de la présence de Dieu qui peut nous perdre, qui peut vous perdre, si vous ne voulez pas connaître le lien entre ce que nous voyons et ce qu'on appelle Dieu. Et donc, et sans le savoir, petit à petit, nous glissons vers ce que nous voyons. Et ce que nous voyons devient notre Dieu plutôt, devient ce qui nous guide. Et nos sentiments, nos sensations, notre intelligence nous guident au point où, puisque c'est comme ça que la société est formatée, il est difficile pour nous de suivre Dieu. Et donc, si je vous posais la question de savoir qu'est-ce qui a été dit le dimanche dernier? Peu de gens me répéteront ce qui a été dit le dimanche dernier. Alors, si je vais encore plus loin, et peu me diront ce qui a été dit. Ce qui veut dire que nous écoutons la parole, mais nous ne vivons pas la parole. Et, or, on ne devient chrétien que lorsque on croit et qu'on vit la parole de Dieu. Il n'y a pas deux manières, il n'y a pas deux manières de croire en Dieu. Soit vous êtes fervent d'esprit, vous avez l'esprit saint et vous vivez dans l'esprit, avec l'esprit. Vous vivez dans Jésus-Christ, en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, ou soit vous êtes dans une association qu'on appelle le christianisme et vous croyez, vous vous battez avec les armes charnelles, les armes physiques que vous voyez, vous vous battez, vous croyez que vous êtes sur le bon chemin. Et et très souvent, nous sommes perdus. Dans son épître aux Romains, Paul disait, dans son chapitre 12, versets 11 et 12, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Amen. Romains 12, versets 11 et 12. Soyons fervents d'esprit. Vous savez, je me demande si nous sommes sur la voie de rencontrer Dieu. Il y a des jours où je suis très triste, où nous sommes sur la voie de réaliser ce que nous pensons être la vie sur terre. Mes amis, nous irons dans Romains, chapitre 2 Rois, pardon, pas Romains, 2 Rois 6 et 2 Rois 7. 2 Rois 6 et 2 Rois 7. Et je vous conseille de lire tous ces deux chapitres quand vous serez à la maison, quand nous partirons d'ici, ou de les lire à la fin, quand nous aurons fini. Ne finissez pas la journée sans lire les deux chapitres. Il s'agit ici, à partir de Roi 6, à partir du verset 8, il s'agit ici du roi de la Syrie qui veut attaquer Israël. Le roi de la Syrie a pris la décision d'attaquer Israël. Donc, ils se sont fixés un lieu où ils vont se rassembler pour attaquer Israël. Et Élisée a dit au roi que les gens, les ennemis vont se réunir ici pour l'attaquer. Le roi, sans voir les ennemis, a envoyé quand même des éléments, des officiers pour aller voir si il y a une présence des Syriens. Puisque les Syriens aussi, avant d'arriver, doivent surveiller le territoire pour voir si les Israélites ne sont pas dans le coin. Et aussi, ils ont vu qu'il y a des gens qui viennent s'informer si quelque chose se passait sur ce territoire où ils veulent se rassembler. Et donc, ils ont informé le roi que les Israélites sont en train de venir là-bas pour surveiller le territoire. Donc, pour le roi de la Syrie, c'est quelqu'un de la Syrie qui allait dire au roi d'Israël que c'est qu'il y aura une guerre contre Israël, alors qu'il veut prendre Israël par surprise. Le roi de la Syrie s'est énervé pour demander qui de l'armée va et aller dire au roi d'Israël que c'est là où ils veulent débattre pour attaquer Israël. Et il y a quelqu'un, un des officiers du roi de la Syrie, qui a dit au roi, il y a en Israël un prophète qui est appelé Élisée, qui sait tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, même dans ta chambre à coucher. Il le sait. Ce n'est pas quelqu'un de la Syrie qui allait informer Israël. C'est ce monsieur, ce prophète-là, qui fait, ô roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète, l'un de ses serviteurs répondit, verset 12, du roi 6, verset 12, l'un des serviteurs répondit, bon, verset 11 d'abord, le roi de Syrie en eut le cœur agité, il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Et l'un des serviteurs, de ses serviteurs répondit, personne, ô roi mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Et je voudrais, quand je dis soyez fervents d'esprit, je disais qu'il y a des jours où je suis très préoccupé par notre avenir. Je me demande si tout ce que nous faisons nous fait avancer petitement au moins vers le Seigneur ou si nous sommes toujours dans ce monde en train de saisir les choses, d'analyser les choses, d'apporter des réponses avec toute notre force Selon notre connaissance et notre intelligence, ce que notre intelligence nous donne de cerner. Quand on a dit au roi de Syrie qu'il y a un prophète qui l'écoute même dans sa chambre, accroché, n'est-ce pas que nous sommes tous comme le roi de Syrie? Est-ce que ça nous dit quelque chose quand quelqu'un. Est-ce que quand nous disons homme de Dieu, prophète, quoi, est-ce que nous croyons à ce que nous disons ou bien ça fait bien de prononcer ces choses? Et le roi de Syrie s'est comporté comme nous. Il a demandé qu'on lui ramène Élisée. Il n'a pas eu peur de Dieu. Et nous tous, voilà comment Dieu nous aide, nous fait faire, nous vient à nous avec des révélations, avec des connaissances, des paroles de connaissance, et nous dit ce qui est devant nous, au lieu d'avoir la bonne réaction, nous avons plutôt une mauvaise réaction. Élisée et le roi de Syrie n'a pas eu peur de ce que Dieu fait en Israël, il n'a pas eu peur de cet Élisée qui a appelé un prophète et de ce qu'il dit au roi. Mais il demande à qu'on aille le prendre pour lui. Il veut le détruire. Il veut détruire la parole de Dieu. Il veut détruire la révélation de Dieu. Est-ce que nous comportons pas comme des gens qui détruisent la révélation de Dieu? Alors, il s'est dit, ce n'est plus tout Israël que je veux prendre. Je veux prendre d'abord Élisée. Et il a envoyé une troupe. C'est cette troupe. Parfois, nous prononçons des paroles écrites parce que ça fait bien. Nous croyons que nous nous défendons sans connaître la profondeur spirituelle de ce que Dieu veut dire. Alors que nous agissons comme le roi de Syrie, nous disons comme Élisée. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Est-ce que nous n'avons pas nous-mêmes réagi d'abord comme le roi de Syrie? Si la parole de Dieu nous vient, au lieu de demander, Dieu a donné, a mis dans l'esprit des idolâtres, des païens aussi, la force de l'écouter. Sinon, il n'y aurait pas quelqu'un de la maison du roi pour dire au roi, il y a en Israël un prophète appelé Élisée. Il donne même aux païens de le connaître. Dieu donne aux païens de le connaître. Mais nous ne le connaissons pas, nous n'avons pas connu, nous n'arrivons pas à connaître notre Dieu. Alors, avant de poursuivre ceci, je vous donne deux témoignages qui ne sont pas reluisants pour moi. Ce matin, ça m'est venu à l'esprit, ces deux témoignages qui disent la même chose. À chaque fois que nous finissons ici, il y en a qui se disent, oui, avec la prédication d'aujourd'hui, je crois donc, je vais faire plutôt la volonté de Dieu. Et puis, ça dure le temps de 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, et puis, les gens sont encore révoltés dans leur cœur. Et ils reviennent à ce qu'ils faisaient, comment ils voient Dieu. Et ça continue, ça continue. Ça continue. J'étais au Ghana. Et donc, j'ai pris un jour un bus qui nous prenait de haut vers Accra. Et j'ai rencontré une voodoo avec tous les accoutrements dans le bus. On était côte à côte. Donc, je lui parlais de Dieu sur le chemin. Et pas loin d'Aplaou, la dame m'a demandé, Le Dieu dont tu parles, tu me parles, ce Dieu-là, si je le suis, qu'est-ce qu'il me fera, qu'est-ce qu'il me donnera? Je ne vous cache pas que je prêchais. Donc, je vous pose la question. C'est la question de vous aussi. Et dans mon intelligence, je lui ai dit non, il te rendra riche, il te donnera tout ce que tu veux, tu ne seras plus dans ses appétits. Si c'est l'argent, j'en ai. Si ce sont les enfants, j'en ai, ils ont réussi. Qu'est-ce qu'il me donnera? La question est restée sans réponse entre elle et moi jusqu'aujourd'hui. Le Dieu que vous appréciez, pour lequel vous vous battez, si je suis votre Dieu, qu'est-ce qu'il vous fera? Bien. Je suis allé un jour chez le docteur Bayer. Donc, ce qui veut dire que moi aussi, j'avais un problème de maladie. Hein. Moi, j'avais un problème de maladie. Donc, c'est ça qui m'a amené là-bas. Et j'ai vu un Nigérien, il doit être un Nigérien, portant son petit sac avec un bâton. Son petit sac de médicaments avec un bâton. Et j'étais assis, il était venu. On était assis, on attendait le médecin. Et moi, j'ai commencé par lui parler de Dieu. Et il m'a demandé, mais ton Dieu, là, si je le suis, ça, c'est peut-être plus de 10 ans, 15 ans ou 20 ans, je n'en sais rien, mais c'était vraiment après. Si je le suis, je n'ai pas réussi à répondre à la dame et je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas prié pour cet échec que j'ai eu. Et le Nigérien me demande, si je suis ton Dieu, qu'est-ce qu'il va me faire? Et je lui ai dit que il va t'aider à laisser tomber ton petit sac. Et il me répond, mais monsieur, chacun a son petit sac. Ce qui veut dire que moi aussi, j'ai un petit sac. C'est un petit sac qui m'a amené à la clinique. Si je n'avais pas de petit sac, pourquoi je suis assis ici? Lui, au moins, il est en bonne santé. Lui, il vend des médicaments, donc il est mieux que moi. Me dit, non. Chacun a son petit sac. Ça, c'est la prédication du païen. Je veux dire par ces deux témoignages que la parole de Dieu sur Dieu n'est pas une affaire d'amusement. Où nous croyons. Nous sommes fervents d'esprit et nous avançons. Cela veut dire que nous ne devons pas analyser les choses avec notre vision. Ce n'est pas une question de je pense que, moi je crois que. Non. Dieu ne nous invite pas à des réflexions. Il nous invite à quoi? À avoir la foi. Ça dit que de la même manière, que nous croyons que si nous mettons un noyau d'avocat dans du bon sol, nous pourrons attendre pour voir l'avocat germer. Le premier plant que nous verrons ne ressemble en rien à ce que nous avons là-bas. Et l'avocatier que nous verrons plus tard n'a rien à voir avec cet avocatier. Et nous serons surpris de voir un jour des fleurs et des fruits. Nous sommes capables de croire en ça. Dieu l'a déjà fait. Nous n'avons rien fait de nouveau en croyant qu'en mettant un noyau, une graine dans le sol, arrosé, un jour, il y aura des fruits. Nous n'avons rien fait en croyant que si ce n'est pas un avocatier, si nous mettons un palmier, un jour nous verrons des fruits rouges. Nous n'avons rien fait en croyant, en distinguant le cocotier du palmier, en sachant que si nous prenons le cocotier, un jour nous aurons de gros fruits qui sont remplis d'eau. Nous ne nous imaginons pas comment Dieu fait pour créer à l'intérieur de ces fibres une grosse coque qui est remplie d'amandes, l'amande qui sait où elle doit s'arrêter et du jus qui remplit cette amande et qui peut nous. Nous n'avons aucune idée de la chose. Mais nous prenons du lait de coco tout le temps sans penser à ce que Dieu fait. Ça, c'est une loi qui est déjà, que Dieu a déjà établie. Le cocotier ne donnera pas de noix de palme. Le cocotier ne donnera pas d'orange. Et Dieu nous l'a fait connaître dès la création. La poule ne donnera pas un cabri. L'âne ne donnera pas un cheval. Dieu nous a même honorés en nous demandant de leur donner des noms. Ce n'est pas Dieu qui a donné des noms aux animaux. Il a demandé à l'homme de dire comment on va les appeler. Dieu nous a donné ce pouvoir de nommer les choses. Mais aujourd'hui, nous ne voulons plus écouter Dieu pour prier avec nous des noms, ne serait-ce que notre propre nom. Nous ne croyons pas. Nous recevons. Mais nous jugeons parfois avec, nous confondions donc Dieu avec Dieu lui-même. Alors que Dieu ne nous demande qu'une petite chose, soyez fervents d'esprit, soyez obéissants. Alors, en revenant à Élisée ici, lorsque le roi de Syrie a envoyé une troupe pour aller arrêter Élisée, Dieu a permis à Géasi, qui est le serviteur d'Élisée, de voir ces Syriens qui se sont attroupés pour venir prendre Élisée. Alors, Géasi s'est inquiété. Il avait de la frayeur. Après avoir vu cette troupe, il a dit à Élisée, son maître, Ah, mon Seigneur, que ferons-nous? C'est la fin du verset 15 du roi 6. Il répondit, Élisée lui dit, Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ah! Ainsi que se trouve toute la question de la croyance et de la foi. Vous voulez savoir, vous voulez voir ce que Dieu a fait ou ce que Dieu fera avant de croire. Quand Dieu nous dit quelque chose, le comportement dans la prière, ce n'est pas de remercier Dieu pour ce qu'il veut faire. Nous nous posons des questions. Parfois, nous avons peur même d'avancer dans cette voie. Et ce qui me fait, ce qui est terrible dans ce comportement, c'est que nous disons c'est demain, c'est après-demain, en ayant le comportement du roi de Syrie. Nous tentons d'abord une autre approche, notre réponse. Nous avons notre approche et c'est ça que nous tentons. Et en même temps, nous devenons comme Géasi. Que ferons-nous? Et quand dans cette affaire, Géasi, nous avons vu que la chose s'est compliquée plutôt et que maintenant ce ne sont plus des sentinelles qui viennent regarder et que maintenant la troupe est déjà là, comme Géasi, nous nous retournons pas vers le prophète, mais contre le prophète, parce que ce que nous voyons, voilà une troupe qui est déjà arrivée. Et nous perdons toute la confiance en Dieu. Parce que ce que nous voyons est déjà très grave. Comment peut-on continuer de parler de Dieu, de parler d'une révélation de Dieu, de l'obéissance, quand déjà la troupe ennemie est sur notre territoire? Comment on peut avoir la paix du cœur? Élisée, qui avait encore l'intelligence de Dieu, l'esprit de Dieu, a dit à Géasi, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et Élisée a prié pour que l'Éternel ouvre les yeux de Géasi. Que l'Éternel ouvre nos yeux aujourd'hui pour que nous voyons derrière ce que Dieu nous présente comme étant une menace, une mauvaise chose, que nous voyons derrière cela la main de Dieu qui veut nous sauver. La main de Dieu qui nous faire vivre une vie spécifique, unique, pour que nous voyons avec lui, avec Dieu, ce que les autres n'ont pas vu. Pour que nous ayons la bénédiction, la primeur d'une bénédiction que Dieu veut accorder à ses enfants. Mais souvent, les chrétiens s'arrêtent à la vue de ce qu'ils pensent menacer leur vie. Les chrétiens s'arrêtent là-bas, comme Béhazi. Ils ont peur, ils taxent même. Soit ils veulent faire comme le roi de Syrie, ils combattent pour combattre celui par qui Dieu parle, celui qui est venu avec la révélation, celui par qui la révélation de Dieu est venue. Ils le trouvent même comme quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, ou quelqu'un qui s'amuse avec la parole de Dieu. Je loue Dieu de ce que, comme c'est dit dans Romains 12, soyez patient dans l'affliction. J'ai apporté la parole de Dieu à beaucoup de gens qui n'ont pas cru et qui m'ont pris pour un plaisantin, un homme sans personnalité. Parce que ce que nous voyons, ce que eux ils voyaient, n'a rien à voir avec ce que je disais que Dieu dit. Mon Dieu, là, il se trouve où? Lui, son Dieu, il sait quoi? C'est quel Dieu qui dit des choses comme ça? Et parfois, ça dure 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et après, malheureusement, la personne revient te dire, pardonne-moi. Mais c'est fini. Dieu a déjà pris son chemin. Que Dieu nous épargne tout ça. Mon Evémian. Parce qu'en ce moment, na dogbe rakaka a mais la voix de Dieu n'est plus. Que Dieu nous aide. Je vous le dis parce que c'est ce même Géasi à qui Dieu a montré ceux qui sont avec nous, à qui Élisée a dit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. C'est ce même Géasi qui avait la vision naturelle des choses, la vision charnelle des choses, et qui est allé après Naaman pour réclamer les cadeaux qu'il voulait faire à Élisée. Et Élisée lui a retourné. Il ne voyait pas comment on peut guérir un général syrien à 0 franc. Et que la personne, ce n'est pas toi qui as demandé, la personne même te fait des cadeaux, tu refuses. Géasi est parti derrière pour prendre ça, l'argent. Pour l'argent, pour les biens, nous refusons de suivre Dieu. Alors que Dieu veut nous rendre libres, au lieu d'aller chercher chez quelqu'un, Dieu nous veut nous rendre nous-mêmes riches et a essayé de voir si nous serons obéissants jusqu'à la fin et nous a mis peut-être une première épreuve. Et nous sommes en train de réfléchir, réfléchir, réfléchir jusqu'à ce que la misère s'établissent chez nous complètement. Que tu fasses, sans que nous ne puissions pas être comme le roi syrien, que nous ne puissions pas être comme le roi, comme Géhazi. Géhazi était avec Élisée, mais ne croyait pas que Dieu pouvait sauver. Si Dieu a sauvé, donc ça doit être payé. S'il y a un effort qui a été fait par Dieu, il veut voir l'argent en espèces. C'est le seul langage que nous connaissons. Sûrement que Géasi a fait déjà des plans derrière sur l'argent en n'écoutant pas Dieu. Maintenant, quand Élisée a montré à Géasi de l'armée que lui ne voyait pas, l'armée de Dieu, qui est déjà prête pour sauver Israël. Qu'est-ce qui est arrivé? Les Syriens sont allés jusque dans la maison du roi et ils ont été entourés. Ils étaient à l'intérieur de l'armée israélienne. Le roi d'Israël aussi. Heureusement qu'il s'est adressé à Élisée. Frapperai-je? Élisée lui a dit, tu ne frapperas point. Donne leur à manger. Est-ce que tu frappes les gens qui sont tes prisonniers? Quand tu as enfermé les gens en prison, tu vas les frapper. Non, donne leur à manger et tu les renvoies à leur roi. Dites-moi s'il y a ici quelqu'un qui et pressé par un problème, une armée, un problème, et qui a été sauvé, et que finalement l'ennemi se trouve entre ses mains. Dites-moi qui va nourrir, qui d'entre nous va nourrir l'ennemi pour le renvoyer. Soyons fervents d'esprit. Dans 2 rois 7 aussi se trouve une histoire. C'est quand les Syriens. Non. À la suite de cette histoire de soldats qui sont arrivés, c'est que les Syriens avaient un autre roi. Les premiers, eux, ils ne sont plus venus attaquer Israël. Ce qu'ils ont vu était suffisant pour ne plus s'essayer. Le verset 23 de 2 Rois 6 dit, le roi d'Israël leur fit servir un grand repas Et ils mangèrent et burent, puis ils les renvoyèrent. Et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Donc, un autre roi est venu. Ce roi, lui, l'a vu pour lui. Et finalement, il a décidé de ne plus s'attaquer au peuple de Dieu. Mais il y a un autre roi qui est venu avec sa fougue. Il est allé assiéger Israël. Le siège d'Israël a été tel que les gens ne trouvaient plus à manger. Israël était dans un mur. Et donc, quand Israël est assiégé, on ne peut plus aller au champ. Vous ne mangez que ce que vous avez à la maison jusqu'à ce que ça finisse. La nourriture était finie. Au point où le roi lui-même voudrait voir si ça continuait ce que les Syriens faisaient. Et il marchait sur le mur qui entourait la ville. Le roi marchait quand une femme l'a interpellé pour lui dire de juger une affaire entre elle et son ami. Cette femme était tellement affamée que la femme dit que et sa voisine lui a dit que là où on est arrivé, on ne peut pas mourir, on ne peut sacrifier les enfants. Et elles ont mangé l'enfant de l'autre. Sacrilège. Maintenant que la viande de l'enfant de l'autre est finie, non, elles ont mangé son enfant. Maintenant que la viande de son enfant est finie, elle a demandé à l'autre d'apporter aussi son enfant qui a refusé. Donc, elle a porté l'affaire à la connaissance du roi qui avait déjà un problème de siège. Et le roi a dit, mais c'est quelle affaire ça? Au lieu d'apporter la bonne réponse, le même roi qui a fait chez qui Élisée a amené ses ennemis, les Syriens, le même roi d'Israël, s'est énervé pour demander qu'on lui amène Élisée. Comment Élisée peut être là? Et nous, on sera dans cette famine au point où les gens commencent à manger leurs enfants. Qu'on lui amène Élisée pour qu'il le tue. Le même roi d'Israël. Est-ce que nous ne sommes pas souvent comme le roi d'Israël? Est-ce que nous sommes fervents d'esprit comme Élisée, en gardant, en cherchant la volonté de Dieu, en faisant ce que Dieu nous dit? Et finalement, Élisée a dit, ainsi parle l'Éternel, 2 Rois 7, verset 1. Quand les gens sont venus pour le prendre, pour que le roi le tue, il dit aux gens, ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs, de farine pour un sicle et 2 mesures d'orge pour un sicle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. On est dans la famine, personne n'a plus fait de champ. Même si on ouvre les portes, on ira récolter quoi? Et c'est dans ça, contre toutes les prédictions, les prévisions possibles, Élisée dit, demain, il y aura tellement de nourriture que vous n'avez pas besoin de vous gêner. Ce sera bon marché à la porte d'Israël. Combien de fois je ne vais pas dire de couper Dieu. Est-ce que nous ne sommes pas seulement comme l'officier sur qui s'appuie le roi? Roi, tu es babamani, peu moussé. Et demande, on met donc un rebond. Eh bien, Aden-Mokoto, et l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel. Il y a beaucoup de feu sur le nous. Fait si la fenêtre avait coulé. Pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Voici comment c'est compliqué, monsieur. Je crois en Dieu. Nous blenoir. On a nos blocs les convictions, on a nos bourbes, on est sénat. Il y a les criots blanayers. Qui croirait que Dieu peut utiliser des lépreux comme une bénédiction d'Israël? Qui croirait que ces lépreux qui sont gardés au-delà de la porte ont pour vocation de sauver un jour Israël? Quelle importance Israël, le dernier dans le mur, accordait aux lépreux qui étaient au-delà du mur? La famine était au-dedans et au-delà du mur. Comme tout bon chrétien, dès que nous avons la révélation de Dieu, ça c'est au-delà du mur. Au-dedans du mur. Et nous pourrions. Mahomateza. L'officier a dit, même si Dieu ouvrait les fenêtres, les écluses des cieux, qu'est-ce que mais les lépreux ont fait venir la nourriture au point où Dieu a fait sonner les clochettes. Yokela fona les plus hauts, ou les diabèles, vacarme, armée bona. Et les Syriens ont dit, ah, les Égyptiens, les Éthiens, les rois des Égyptiens, des Éthiens se sont mis avec Israël pour venir les attaquer. Dans leur précipitation, ils ont laissé les choses. Et ils sont partis. Ils ont laissé leur réserve de nourriture et tout. Et il y avait de la nourriture en abondance. C'était mieux que leur récolte. Mais l'officier, qui aussi voulait profiter de la chose, de cette richesse, on lui a marché dessus dans la précipitation des Israélites pour aller prendre la nourriture. On lui a marché dessus. Non seulement il n'a pas mangé, mais il est mort. Soyons fervents d'esprit. Vous voyez que ces histoires, qui sont des histoires vraies, se sont passées avec des phases. Et que mais nyao, nanoa. Non, pas ça, saga. Soyons fervents d'esprit. Soyons persévérants et réjouissons-nous dans l'espérance. Et nous, on est clair, on est venu à nous. Nous sommes venus à nous. Nous sommes venus à Subamawa, à l'Ekedji. On est venu à nous. Mais, on m'a dit, c'est comme dit, vous voyez parfois la désobéissance, l'irrespect que les gens ont pour la parole de Dieu. Amène des gens qui n'étaient pas censés profiter notre position vis-à-vis de Dieu, avec des gens qui ne devaient pas profiter comme nous, a profité plus de Dieu que nous. L'officier du roi, le roi Blobé, officier de la soirée, tout le monde, il est conseillé ici. Le roi là-bas, officier, ne l'a pas. Le roi là-bas, a affiné nos questions de Dieu. Le roi là-bas, mais pour n'avoir pas cru, le roi n'a pu rien pour lui. Et le roi qui s'appuyait sur lui, sur qui le roi s'appuyait, n'a plus rien. L'officier n'a plus rien pour lui-même. Il est mort. Il a défié Dieu. Il y avait comportement souvent. Nous défions Dieu. Nous ne croyons pas. Et nous voulons, parfois même nous nous comportons. Nous ne voulons pas, nous savons pas que c'est à nous-mêmes de faire notre part. Et nous attendons. Nous sommes lourds pour dire à Dieu ce que. Pour faire les prépas devant Dieu. Mais nous avons même de la peine à dire que c'est Dieu et que c'est vrai. Nous ne vivons pas dans la vérité de Dieu. Soyons fervents de l'esprit. Que Dieu, qui a sauvé tous ces jeunes, tout ce peuple d'Israël, de différentes manières, dans la guerre, il les a sauvés. Dans la famine, il les a sauvés. Avec différents rois, Syriens, il les a sauvés. Ce Dieu est avec nous. Il le fait encore aujourd'hui. Dieu n'a rien à foutre avec nos sentiments, ce que nous croyons. Il nous demande que d'être fervent en l'esprit. Dieu nous bénisse surabondamment et qu'il fasse en sorte que chacun d'entre nous soit plein d'esprit. Et que nous ne soyons pas emportés par des vents de tous côtés, comme le roi de Syrie, comme Géasi, comme le roi d'Israël, comme l'officier du roi d'Israël. Que Dieu fasse en sorte que nous restions comme Élisée. Et que même dans notre peur, n'oubliez pas que Élisée lui-même, quand le roi voulut le tuer, a eu peur, a demandé que les gens rentrent pour pousser la porte. De sorte que bonne porte année. Mais c'est ce qu'il était en train de dire aux gens quand ceux qui doivent venir le chercher pour le rendre au roi, pour qu'il le tue, sont arrivés. Et il a plutôt prophétisé le salut. Et c'est ce qui est arrivé le lendemain. Que ce soit ainsi dans notre vie. Dieu nous bénisse tous surabondamment. Amen.